9h10 à Port-au-Prince, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. Haïti, où on est toujours sans nouvelles des 12 personnes en provenance de République Dominicaine enlevées dimanche par le gang des 400 Marozon. On retrouve Godson Pierre d'Alter Press à Port-au-Prince dans un instant. Nouvelle émeute mortelle dans une prison en Équateur. Lula qui tient son premier meeting au Brésil. Ce sera avant notre dossier du jour consacré à l'aide d'experts latino-américains dans le scandale des pensionnats autochtones au Canada. Et puis dans une quinzaine de minutes, Tessa Groman, le journal de la première ensemble, de nouvelles arrestations dans le milieu de l'orpaillage clandestin en Guyane.
Oui, une vaste opération menée par la gendarmerie qui a abouti à l'interpellation de 17 chercheurs d'or illégaux.
A tout à l'heure, Tessa, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'horreur enrobée d'ordinaire, écrit aujourd'hui dans ses pages le Nouvelliste au sujet de ces gangs qui terrorisent Haïti et kidnappent chaque jour toujours plus de citoyens. Personne n'est épargné, on l'a vu encore dimanche, donc avec l'enlèvement de 12 personnes, parmi lesquelles 8 Turcs, tous venaient de République Dominicaine. Leur bus a été détourné, on l'a appris hier, Amélie Baron.
Le bus était parti dimanche matin à 9h de Santo Domingo et aurait dû arriver dans la capitale haïtienne en fin de journée. Mais peu de temps après son passage de la frontière, le véhicule a été détourné dans cette large zone contrôlée depuis des années par le gang des 400 Marozo. Et personne depuis n'a de nouvelles de ses 12 occupants. Côté passagers, il y avait donc 8 citoyens turcs, 2 citoyens haïtiens, à quoi il faut ajouter le chauffeur dominicain et l'hôtesse haïtienne. Les ressortissants turcs sont âgés de 20 à 26 ans et ils venaient en Haïti dans le cadre d'une association de promotion de l'éducation et d'enseignement religieux. Ce rapt, que l'on présume crapuleux, même si aucune demande de rançon n'aurait encore été formulée, vient s'ajouter à la longue liste de cas commis dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince depuis le début du mois de mai. Qui une pédiatre, qui un membre de direction d'administration publique, les enlèvements se multiplient, ce qui plonge tous les habitants dans un état de stress quasi permanent. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
La capitale haïtienne où l'on retrouve Godson Pierre, le rédacteur en chef du site Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Vous avez quelques précisions au sujet de ce rapt, Godson?
Eh bien, les parents du chauffeur du bus ont été reçus hier à la chancellerie dominicaine à Santo Domingo. Les autorités assurent qu'elles sont en contact avec leurs homologues en Haïti pour un suivi efficace de l'affaire. Elles rappellent leur recommandation aux Dominicains de s'abstenir de se rendre en Haïti, sauf pour des raisons essentielles.
Alors, malgré ces enlèvements quotidiens et cette insécurité chronique, Godson, le patron intérimaire de la police d'Haïti est satisfait de lui-même, un Franz Elbé dressé hier le bilan de ses 6 premiers mois à la tête de la PNH. Il a notamment évoqué un processus de transformation pour répondre aux exigences du moment.
Eh bien oui, il insiste sur la formation continue pour les unités spécialisées de la police et des démarches d'acquisition de matériel et équipement pour la police, bien entendu, avec l'appui du gouvernement en place. Et à ce propos, dans la soirée, le Premier ministre de facto Ariel Henry a profité de la fête de l'Europe pour solliciter l'aide de l'Union européenne en moyens et formations adaptées pour la police afin de lui permettre de combattre plus efficacement les gangs qui paralysent certaines zones du pays. Et en entrevue avec les médias, l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, a fait part de la possibilité pour l'Europe d'apporter un appui, mais c'est quand même au pays de faire, dit-elle.
Les gangs que vous évoquiez, Godson, qui se sont affrontés pendant une dizaine de jours dans la plaine du cul-de-sac, la PNH et donc son chef Franz Elbé, hier au cours de sa conférence de presse, en a fait mention. Il entend renforcer les dispositifs de sécurité dans la plaine.
Oui, ces affrontements ont laissé un lourd bilan, 75 morts. Et chaque jour, nous serons beaucoup plus menaçants envers les gangs de la plaine, promet Franz Elbé, soulignant en vouloir reprendre totalement le contrôle de la situation. 54 personnes arrêtées, 16 armes saisies et 7 véhicules et des motocyclettes confisqués, plusieurs bandits tués. Telles sont les données fournies par le directeur de la police sur les dernières opérations menées en plaine. 3 policiers ont été également blessés.
Vous évoquez l'Europe. Du côté des États-Unis, Godson, 2 sénateurs américains exhortent l'administration Biden à stabiliser Haïti.
Si rien n'est fait, le départ massif d'entreprises et d'organisations humanitaires américaines et internationales pourrait aggraver considérablement la situation économique déjà désastreuse d'Haïti, préviennent Marco Rubio et Raphaël Warnock dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Enfin, c'est à lire aussi à la une d'Alter Press comment la géographie latino-américaine s'est de plus en plus haïtianisée. Vous braquez les lumières, Godson, notamment sur la migration haïtienne à Tijuana, au Mexique.
Oui, où on peut constater qu'on écoute le créole haïtien dans les bus et dans les rues. On rencontre des Haïtiens dans de nombreux espaces de cette ville mexicaine de plus en plus cosmopolite. Des restaurants et des studios de beauté gérés par et pour des Haïtiens s'ouvrent dans des lieux stratégiques de rencontre à Tijuana. En fait, nous notons que du Brésil et du Chili au Mexique, eh bien, la géographie latino-américaine est de plus en plus marquée par la présence des Haïtiens.
Des Haïtiens que l'on retrouve aussi en nombre du côté de la Floride. Merci beaucoup, Godson. Tout ça, bien sûr, est à retrouver sur votre site Alter Press. J'évoque la Floride, vers laquelle les yeux des Cubains aussi lorgnent. Bonjour, Arim Leipold.
Bonjour, Michael. Bonjour à tous.
En effet, de plus en plus de Cubains tentent de fuir par bateau vers les États-Unis et cela inquiète les autorités américaines.
Oui, plus de 50 personnes reparties en 6 groupes différents sont arrivées en Floride au cours du week-end dernier. Toutes ont été pris la fuite dans les embarcations de fortune, selon le Miami Herald. Le journal précise que toutefois la majorité des réfugiés sont en général directement interceptés en mer et renvoyés à Cuba. Depuis octobre dernier, les gardes-côtes américains ont ainsi empêché plus de 1600 Cubains de débarquer en Floride. D'après Ramon Saul Sanchez, un militant anticastriste basé à Miami, les autorités l'Havane encourage cet exode cubain. L'objectif est de créer des tensions internes aux États-Unis à 6 mois des élections de mi-mandat, toujours selon ce militant cité par le Miami Herald. Eh bien, les Cubains vont toutefois continuer à fuir leur pays. Ils sont désespérés. Certains n'ont plus d'eau potable. Le gouvernement coupe fréquemment l'électricité et il n'y a plus de médicaments.
Voilà pour Cuba. Au Mexique, Arim, la liste s'allonge. 2 journalistes encore ont été tués hier, assassiné dans l'état de Veracruz.
Oui, il s'agit de Yesenia Molinedo, directrice du site d'information El Veras, et de la caméraman Sheila García. Les 2 femmes ont été tuées alors qu'elle se trouvait dans une voiture sur le parking d'un supermarché, écrit le journal El Universal. L'Association pour la protection des journalistes à Veracruz a demandé aux autorités que l'enquête se concentre notamment sur l'activité professionnelle des journalistes comme mobile du crime.
Les cris de protestation de familles de détenus devant la grille de la prison de Bella Vista. On est là, en Équateur, à 100 de kilomètres de Quito. Au moins 44 prisonniers ont été tués dans des affrontements à l'intérieur de cet établissement. Une fois de plus, ce sont des bandes rivales liées au trafic de drogue qui se sont affrontées à coups de couteau. Plus d'une centaine de détenus se sont évadés.
Mi tío que está privado de libertad.
Mon oncle est incarcéré et je n'ai toujours pas reçu de réponse à la question de savoir s'il est en fuite ou non, explique là ce jeune homme venu devant la prison de Bella Vista. En un an, ces violences entre les loups et les R7, ces 2 gangs ont fait plus de 350 morts dans les prisons surpeuplées d'Équateur. Cette fois-ci, il est bel et bien en campagne. Lula se lance dans la course à un 3e mandat à la tête du Brésil, Arim.
Oui, 2 jours après avoir déclaré officiellement sa candidature, le vétéran de la gauche brésilienne a fait son premier meeting de campagne. C'était hier à Belo Horizonte.
Eu quero ser candidato de movimento das pessoas que amam.
La voix déjà bien fatiguée, vous pouvez l'entendre, il a assuré devant ses sympathisants qu'il n'était pas le candidat d'un parti, mais d'un mouvement, celui de tous ceux qui ont perdu leur emploi ou leurs proches pendant la pandémie du Covid et qui, d'une manière générale, n'arrivent pas à vivre décemment avec leur salaire. Lors de son discours, il s'est présenté comme l'antidote au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui n'a cessé de qualifier de fasciste. Ce n'est pas un hasard que Lula ait choisi l'état de Minas Gerais, Belo Horizonte, pour députer disputé sa campagne. C'est l'État dont le collège électoral est le plus important après celui de Sao Paulo. Et pour l'instant, les sondages lui donnent 44% d'intention de vote dans cet État, dans le Minas Gerais, contre environ 30% pour son rival Jair Bolsonaro.
La politique aux États-Unis arrime la bataille sur le droit à l'avortement se poursuit et déjà un autre front s'ouvre, celui pour ou contre la contraception.
Les utilisateurs du préservatif doivent-ils s'inquiéter, demande le journal canadien La Presse. Le quotidien relate le cas d'un candidat républicain d'Arizona qui se présente aux élections sénatoriales de novembre prochain. Blake Masters, fervent catholique, joue sur une position ambivalente. Il s'est déclaré favorable à l'annulation de l'arrêt Griswold versus Connecticut. C'est un arrêt de 1965 par lequel la Cour suprême a légalisé l'utilisation des moyens de contraception dans le préservatif, mais en même temps, après la publication d'un article lui attribuant une position anti-contraception, eh bien, il a juré de ne pas s'opposer au préservatif. Il n'empêche, la droite religieuse a déjà ce contraceptif, dans sa ligne de mire, selon La Presse. Au moins trois États, à savoir la Louisiane, le Missouri et l'Idaho, examinent actuellement des projets de loi visant à restreindre l'utilisation de la contraception.
Merci beaucoup, Harim. Les États-Unis, où une cavale qui a tenu le pays en haleine pendant 10 jours, une cavale qui prend fin.
Casey White and Vicky White are in custody. Casey White surrendered. Vicky White has been transported to the hospital.
Casey White et Vicky White, qui portent le même nom mais n'ont aucun lien de parenté. Un détenu qualifié d'extrêmement dangereux et sa gardienne de prison qui l'avait aidé à se faire la belle. Ils ont tous les deux été interpellés hier au terme d'une course-poursuite, comme l'annonçait, vous l'entendiez, le shérif du comté de Van Buren dans l'Indiana. Fin tragique puisque Vicky White a succombé à ses blessures. Une autopsie est prévue cet après-midi. Enfin, 4 petites minutes auront suffi hier à New York.
And so, ladies and gentlemen, we come to the American Dream, Warhol's sublime.
4 minutes et un coup de marteau plus tard, et voilà que le portrait de Marilyn Monroe, visage rose, cheveux jaunes sur fond bleu, peint par Andy Warhol, est adjugé à 195 millions de dollars. Le tableau devient ainsi l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques. Ça se passait chez Christie's. Une page, loin d'être tournée, ne plaît pas encore pensée, malgré les excuses du pape lui-même, il y a un mois. Au Canada, après la découverte, il y a près de 2 ans, des premières tombes d'enfants autochtones près de pensionnats religieux, on tente d'expliquer l'inexplicable. Comment, au cours des 19e et 20e siècles, des générations d'enfants des Premières Nations ont pu être arrachés à leur tribu pour être éduqués, ou plutôt répondre à une politique d'assimilation dans ces établissements? Comment tout cela s'est-il terminé par la mise au jour de milliers de sépultures enfermant les corps de ces enfants? Des experts sud-américains pourraient bien aider à répondre à ces questions. Ils ont participé il y a quelques jours à un colloque organisé par l'Université Laval à Québec. C'est notre dossier du jour. Il est signé Pascal Guéricola.
Environ 6000 enfants autochtones ne seraient jamais rentrés chez eux après avoir séjourné dans des pensionnats où on leur apprenait à la dure à devenir Canadiens. Aujourd'hui, certaines familles veulent connaître leur histoire. Cette tragédie ressemble au drame vécu au Guatemala, au Chili, en Argentine, alors que des agents d'État enlevaient des citoyens et les faisaient disparaître. Voilà pourquoi une professeure de sociologie de l'Université Laval à Québec a sollicité l'expertise d'enquêteurs spécialisés. Durant la rencontre, plusieurs ont donné des conseils pour les recherches qui s'amorcent. Pamela Colombo.
Ce travail scientifique, il faut qu'il y ait toujours au pair avec l'histoire orale. Et on ne peut rien faire. Si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut aller parler avec les communautés affectées, il faut parler avec les familles des disparus. Il faut aussi très bien conserver ce récit et il faut notamment mettre en articulation ces deux types de données très différents. Parce que voilà, on peut très bien faire la recherche dans les archives. Mais ce qui passe le plus souvent, c'est que dans les archives, on va retrouver l'histoire de ceux qui ont commis les crimes. Donc il faut aussi aller parler avec les survivants qui, le plus souvent, n'ont pas une place dans les archives.
Les réflexions d'un enquêteur impliqué dans les enlèvements liés au terrorisme d'État en Amérique du Sud ont grandement intéressé Adrian Bourque. Cet archéologue conseille certaines communautés autochtones.
J'aimerais bien parler avec ces gens-là qui ont travaillé dans ces contextes de violence, par exemple de l'État, pour comprendre bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est littéralement là en train de fouiller les restes de la famille. La famille est présente et comment on doit se préparer pour ça aussi. C'est quelque chose que des fois, comme archéologue, on n'est pas très conscient. On travaille sur des sites qui ont 2-3 000 ans de vieux et on se dit, bon, c'est dans le passé, c'est très lointain. Mais ici, c'est pas lointain. Hein. C'est les gens qui sont vivants encore aujourd'hui, qui ont vu ça, qui ont vécu ça. On n'est pas préparé pour ça comme archéologue, ça c'est sûr.
Ce genre de questions touche directement Marjolaine Tchernich, dont la communauté Innu a abrité un pensionnat pour autochtones au Québec. Elle dirige l'Institut Tchakapesh qui veut centraliser les archives pour toute la nation Innu.
C'est important pour les générations futures, pour qu'ils puissent avoir leur vraie histoire. Si ça, ce n'est pas fait, ils peuvent se construire leur histoire en prenant l'histoire des autres.
Les échanges avec des experts spécialisés en disparition forcée ont permis à Marjolaine Tchernich de mieux comprendre ce qui attend sa nation avec cette démarche.
Il faut faire déjà le deuil qu'on ne pourra pas tout connaître. Ce qui veut dire, c'est qu'il va y avoir des informations, des données qui sont manquantes et qui n'existent plus. Là. Les informations qui n'ont pas été consignées, qui n'ont pas été conservées nulle part.
Les Innu du Québec entament des rencontres avec les survivants des pensionnats pour mieux délimiter les fouilles archéologiques à venir. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tessa Grosman, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous et à toutes.
17 personnes interpellées dans le milieu des chercheurs d'or en Guyane.
Une nouvelle opération anti-orpaillage illégal menée par le GIGN. Elle a eu lieu la semaine dernière à Kourou. Stéphane Brass est le commandant de la gendarmerie de Guyane. Il est interrogé par Véronique Nizan, Guyane la première.
L'intervention de mardi dernier, c'est une opération d'envergure, assez exceptionnelle. D'une part, encore une fois, par la durée des investigations, une année, mais également par le nombre de militaires de la gendarmerie engagés. 380 gendarmes qui, dans la nuit de lundi à mardi, donc sont intervenus sur le PK6 pour boucler le dispositif, procéder à des interpellations et des saisies de matériel.
Et les personnes interpellées ont été mises en examen pour blanchiment de fraude fiscale, recel de biens, complicité d'orpaillage illégal et travail dissimulé. Après Sargasse 1, voici Sargasse 2, le nouveau plan pour lutter contre l'invasion d'algues toxiques sur les côtes antillaises. Environ 36 millions d'euros d'aide ont été débloqués par l'État pour la période 2022-2025, soit 30% de plus que le plan précédent. L'objectif est d'anticiper l'arrivée des algues sargasses sur les plages. Reportage à Guayave de Sébastien Gilles, Guadeloupe la première.
Peu d'algues ce matin-là sur le site de la plage de Sainte-Claire à Guayave. William Germain, chargé de mission Sargasse au sein de la collectivité, présente néanmoins le matériel de ramassage utilisé par les agents communaux et acquis grâce au plan Sargasse 1. Technique délétère pour la plage et le trait de côte. À travers le plan Sargasse 2, les pouvoirs publics espèrent limiter ces techniques au maximum. Il s'agira de ramasser les algues en proche côtier, lorsque c'est possible, ou de les canaliser sur des sites dédiés. Alexandre Rochade, préfet de région.
On veut mettre en place ici, à Guayave, sur la plage de Sainte-Claire et devant le port, des barrages déviants. Il faut connaître la force de la houle pour pas que ce soit perdu. Et donc tout ce travail est en cours et en 2023, on pourra le mettre en place ici à Guayave.
Au total, la commune de Guayave entend investir, grâce au soutien de l'État et de la région, 1 million d'euros pour l'acquisition de matériel de ramassage amphibie et le déploiement de 200 mètres de barrages déviants.
Quatre ambassadeurs de l'UNESCO sont actuellement en Martinique dans le cadre de la candidature de l'île pour l'inscription de la montagne pelée et des pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une visite de terrain décisive à un mois et demi de l'annonce des sites retenus cette année. Manuel Larade.
Toute la biodiversité martiniquaise.
La délégation des ambassadeurs à l'UNESCO se fait expliquer le domaine de l'émeraude afin d'argumenter davantage la candidature de la montagne pelée et des pitons. Après une petite marche dans la forêt, les ambassadeurs ont beaucoup apprécié l'accueil qui leur a été réservé à l'image de l'Égyptien Ala Youssef.
Franchement, c'est ma première visite en Martinique, mais ce ne sera pas la dernière, bien sûr, et je reviendrai parce que l'accueil que j'ai eu par le peuple martiniquais ou partout, c'est quelque chose que je garderai toujours dans mes mémoires.
La délégation va effectuer une sortie en mer ce mardi entre Saint-Pierre et Grand-Rivière.
Un reportage de Manuel Larade, Martinique la première. Voilà pour les nouvelles des Outre-mer.
Merci beaucoup Tessa Groman, à vous et aux équipes de la première. Ainsi se referme notre rendez-vous d'Haïti des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve évidemment demain. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.